faire tout pour payer le loyer. Sinon, c'est la porte assurée. C'est grâce à la vente du gravier que j'arrive à payer un peu.
À Kaya, d'autres quartiers ont poussé de terre. Des maisonnettes, souvent construites à la hâte, pour être louées aux déplacés internes, comme ici au quartier Tiwega, à l'autre bout de la ville de Kaya. C'est là que Rasmata Sawadogo a installé son petit salon de coiffure. Un hangar fait de briques et de brocs, du matériel récupéré en brousse. Elle aussi a fui son village Foubé, à une trentaine de kilomètres d'ici, il y a plus d'un an. Elle et sa famille sont arrivées ici sans rien.
Au début, l'État nous aidait. Mais cela fait 4 mois que nous n'avons plus entendu parler d'elle. Je tresse la tête. C'est ce qui me permet d'acheter les condiments. J'arrive aussi à épargner un peu d'argent. Et à la fin du mois, cela me permet d'acheter de la nourriture.
Des produits cosmétiques, des perles pour embellir les coiffures. Rasmata fait le maximum pour tirer son épingle du jeu. Si la clientèle ne se bouscule pas encore au portillon, les débuts semblent quelque peu prometteurs.
Chaque mois, je peux épargner environ 15 000 francs. Avec cet argent, je paie mes effets pour le salon de coiffure. Mais je réserve aussi pour m'occuper des autres charges de la famille.
Nous suivons Rasmata dans les dédales du quartier. Elle veut nous montrer où elle vit. C'est ici, dans cette cour qu'elle loue à 2000 francs CFA le mois. C'est sous ses tentes que vit sa famille. Une famille de 10 personnes, dont son mari sans activité.
Mon mari est vieux. Vu son âge, il ne peut pas faire grand-chose. Quand il part à la recherche de travail, il n'en obtient pas du fait de son âge avancé.
Ah, on n'a pas le choix. Comme je n'arrive pas à trouver du travail, c'est ma femme qui nous aide grâce à ce qu'elle fait. Depuis notre arrivée ici, c'est le PAM qui nous aidait avec des vivres. Moi, je ne peux plus travailler. Et j'aimerais qu'on aide ma femme dans ses activités pour le bien-être de notre famille.
De nombreux enfants, dont des neveux et nièces, des chefs de famille qui ont du mal à subvenir aux besoins des leurs, des épouses résilientes qui se battent contre vents et marées pour rester debout et dans la dignité. Tel est le quotidien de nombreux déplacés internes, chassés de chez eux comme près de 2 millions d'autres à cause de l'insécurité.
Voilà le reportage de Gildas Da. Il y a des téléspectateurs qui nous suivent sur notre page Facebook, Yves Bobo, qui nous dit « Bonsoir, Gildas Da est de retour de Kaya. Il partage avec nous ses impressions sur ces femmes qui ont fait preuve d'une grande résilience. » Gildas, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Comment avez-vous rencontré ces deux femmes déplacées internes et pouvez-vous nous raconter leur histoire? Comment ont-elles vécu leur déplacement et la perte de tous leurs biens?
Absolument, Eric. Alors, il faut dire d'abord que Rasmata Sawadogo, que vous avez vu dans le reportage, qui est une coiffeuse, elle est assez connue dans le quartier Tiwega, parce que vous avez vu dans le reportage que là où elle exerce, c'est juste à côté d'une adduction d'eau, donc c'est un lieu très fréquenté, et c'est une dame qui est très connue. Alors, pour me mettre en contact avec elle, ça a été relativement facile. Alors, quant à Fatih, qui ramasse les graviers, elle a marché plus de 90 km de Tabrema à son village jusqu'à Kaya, plus de 98 km. La mise en contact avec elle a été moins facile parce qu'elle se déplace d'un site à un autre pour rassembler le gravier. Mais d'une fois que la mise en contact a été faite, les choses se sont passées naturellement. Alors, leur histoire, comme vous le demandez, Eric, ce sont deux femmes qui ont vu le pire, hein, qui ont vu les membres de leur famille tuer, se faire massacrer sous leurs yeux. Après, il fallait fuir. Le mari de Fati, par exemple, a fui bien avant le reste de sa famille parce que, en ce moment, les attaques ciblaient automatiquement les hommes. Donc, lui, il est parti bien avant. Alors, les deux familles ont dû fuir sans rien parce que, en ce moment, de ce qu'elles m'ont dit, transporter des biens sur les chemins, sur les routes, c'était se transformer en proie. Je vais m'exprimer ainsi. Donc, tous leurs biens sont restés sur place, malheureusement. Et il leur fallait sauver ce qu'ils avaient de plus précieux, ça veut dire leur vie. Alors, c'était des gens qui étaient suffisamment nantis pour vivre là où ils étaient et qui se retrouvent déplacés malgré eux, qui sont obligés de se débrouiller et qui vivent sans rien du jour au lendemain. Donc, c'est une sorte de tristesse à leur niveau. Quand j'ai échangé avec eux, les femmes restent déterminées et veulent avancer comme vous l'avez entendu dans le reportage, Eric.
Et comment la communauté locale d'Okaya soutient-elle ces déplacés dans leur reconstruction? Existe-t-il des initiatives locales pour aider ces déplacés à s'intégrer dans la communauté?
Oui, Eric, il en existe hein, des initiatives, mais tout se passe avec vraiment les moyens du bord. D'abord, il y a de bonnes volontés qui ont donné gratuitement des logements à ces personnes déplacées internes, ce qui n'est pas le cas des deux femmes que vous avez vues dans le reportage. Alors, il y a aussi des personnes qui donnent prioritairement des jobs rémunérés, comme par exemple pour nettoyer les maisons, pour faire la lessive, et bien d'autres tâches, pardon, qui leur permettent d'avoir un peu d'argent. Il y a aussi ce cas exceptionnel que j'aimerais partager avec vous. Il s'agit d'un habitant de Kaya qui a donné ses terres, des hectares, plusieurs hectares, qui ont permis l'installation de deux camps de déplacés internes parmi les plus importants de Kaya. En plus de cela, cette bonne volonté a aussi mis à leur disposition, comment on peut appeler ça, une fontaine pour la desserte en eau. Donc, il y a de nombreuses initiatives, dont des collectes de vêtements, des dons de vivres, des collectes d'argent parmi les populations de Kaya pour venir en faveur de ces déplacés internes. Il y a aussi quelques cas rares de déplacés internes qui arrivent trouver des membres de leur famille qui étaient déjà installés à Kaya depuis longtemps. Ces personnes installées à Kaya la prennent en charge, ces déplacés internes qui sont les membres de leur famille.
En quelques secondes, Gildas, est-ce que ces femmes ont-elles accès à des services de base tels que l'eau potable, l'électricité, l'éducation et la santé?
L'eau potable, oui. Sur les camps des quartiers de déplacés internes que j'ai pu visiter, il y a des addictions d'eau, des robinets. Mais si je dois vous dire la vérité, Eric, dans les quartiers où vivent les CDI en dehors des camps, la desserte en eau est payante. Ça veut dire si vous venez avec un bidon, vous payez pour avoir de l'eau. Si vous venez avec une barrique, vous payez pour avoir. Si vous venez avec un seau, vous allez payer. Donc ce sont des dépenses supplémentaires aux charges des familles. Par contre, ceux qui sont sur les sites officiels ont droit gratuitement à de l'eau. Quelquefois, ce sont les ONG qui prennent en charge cette défaite en eau-là. Alors, la santé reste quand même le talon d'Achille, hein, Eric, parce que de ce que j'ai appris, les produits médicaux, très souvent, c'est en manque, c'est en rupture, parce que le nombre de personnes déplacées internes s'accroît sur place. Mais les services de l'État et les ONG tentent de pallier la situation. Mais c'est loin d'être vraiment rose. Donc, ça, je tiens à vraiment le dire. L'autre point de votre question, c'est l'école. Les familles que j'ai pu rencontrer se débrouillent pour payer l'école des enfants. Il faut dire que la particularité, c'est qu'au Burkina, l'école primaire publique est gratuite. Malheureusement, il y a des frais connexes, comme les cotisations des parents d'élèves, les fournitures de scolarité à payer. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, les plus petits enfants vont très souvent à l'école. Mais pour ceux qui ont l'âge d'aller au lycée, au collège, c'est plus compliqué parce que les problèmes d'effectifs se posent.
Merci,
Merci
Gildas pour toutes ces précisions et pour discuter plus en détail du sujet. Nous avons en ligne avec nous Ismaël Diallo, ancien député. C'est l'invité de cette édition de Focus Sahel. Monsieur Diallo, bonsoir. En tant qu'ancien député, quel commentaire faites-vous sur l'expérience vécue par ces deux femmes dans le reportage de Gildas?
J'ai un sentiment très personnel et très particulier parce que Kaya, c'est chez moi, à une centaine de kilomètres de la capitale Ouaga, et parce que très très jeune, avant l'âge de 10 ans, j'ai vu mon père mourir et j'ai vu comment ma mère s'occupait de garder la tête hors de l'eau avec plusieurs enfants. J'ai grandi avec ce sentiment de respect infini vis-à-vis de la femme. Et quand je dis de la femme, ça veut dire de la fille depuis un jour d'âge jusqu'à la fin de sa vie. Alors, Kaya est plein comme un œuf aujourd'hui avec les déplacés internes. et les résidents, les autochtones, si on peut appeler ça comme ça, sont partagés entre faire l'autruche, c'est-à-dire faire comme si la vie continue et il n'y a pas de problème, ou bien se poser la question tous les jours, quand est-ce que ça va s'arrêter, ou quand est-ce que nous-mêmes, nous serons touchés par le terrorisme et avec l'éventualité d'être déplacés internes.
Kaya, c'est donc chez vous. Existe-t-il des actions de soutien ou d'aide humanitaire en faveur de ces déplacés internes?
Oui, il y a des actions qui sont faites et les autorités sont à féliciter, tout comme les organisations internationales et non gouvernementales. Chacun vraiment apporte une part notable et honorable. Mais ce n'est pas assez et ce ne sera jamais assez tant que ces hommes, ces femmes, ces enfants ne pourront pas retourner chez eux, où ils ont leur habitation, ou ce qu'il en reste, et ils ont leurs habitudes, leurs champs, parce qu'ils sont toujours là, bien entendu, même s'ils ne sont plus en bon état, le bétail qui a disparu. Alors les éleveurs devront recommencer tout à zéro. Alors c'est une situation qu'il faudrait résoudre le plus rapidement possible, et la meilleure des façons serait de faire en sorte que les habitants puissent retourner chez eux.
Est-ce que le gouvernement a-t-il les moyens de soutenir la relance économique dans les zones touchées par les conflits, et quelles sont les mesures justement à prendre pour faciliter le retour de ces habitants et faciliter aussi leur réintégration dans leur communauté d'origine?
Je ne serais pas honnête de dire que le gouvernement a toutes les cartes en main pour retourner à la normale, parce qu'il y a très peu pour le moment des déplacés internes qui ont la possibilité de rentrer chez eux. Ensuite, ils sont tellement démunis et leurs habitations ont été saccagées. Comment auront-ils les ressources pour rebâtir leur chez eux, et pour les éleveurs également pour retrouver le bétail, et même les agriculteurs? D'ailleurs, faire la dichotomie agriculteur-éleveur n'est pas correct, parce que tous les agriculteurs ont du cheptel avec eux, ont du bétail avec eux. Et beaucoup d'éleveurs ont également un lopin de terre qu'ils travaillent à certaines périodes de l'année. Donc, comment faire en sorte que tous ces ruraux puissent rentrer chez eux de manière digne et pouvoir s'occuper d'eux-mêmes, pas continuer d'être des assistés? Et d'ailleurs, je peux vous dire que, ayant parlé à beaucoup d'entre eux, et d'autres vous le diront, il y a très peu de personnes déplacées internes qui acceptent le sort actuel, c'est-à-dire de devoir attendre que la nourriture vienne de quelqu'un ou de quelque part. Ils se sentent humiliés que cela soit ainsi, parce qu'ils n'ont jamais été à la charge de quelqu'un et ils vivent une expérience qu'ils n'ont jamais pensé pouvait leur arriver. Surtout étant en campagne chez eux, ils n'avaient jamais pensé qu'ils ne travaillaient pas pour quelqu'un, donc ils n'attendaient pas un salaire. Alors, pour eux, c'est la vie qui est vraiment totalement inversée.
Merci, M. Diallo, pour votre perspective. Je rappelle que vous êtes ancien député burkinabé. Merci de votre temps.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Les récents incidents sécuritaires au Niger ont contraint plusieurs milliers de personnes à fuir leur domicile et à se réfugier dans des endroits plus sûrs de la région de Tillabéri. Pour en savoir plus sur la situation, notre correspondant Abdelrazak Idrissa a rencontré des ressortissants de la zone à Niamey. Son reportage.
Hey, bonjour. Merci.
C'est avec sa double casquette de ressortissant de la commune du Goroual et de vice-président du comité pour la paix et la cohésion sociale dans la région de Tillabéri que Abbas Idrissa nous reçoit dans son bureau.
Aucun village n'échappe à la vindicte, à la terreur des terroristes. Aucune personne n'a aujourd'hui une tête de bœuf. Aucun leader d'opinion, s'il n'est pas assassiné, il a dû quitter. Les animaux sont enlevés, les gens n'ont plus accès à leur grenier, n'ont même pas accès à leur champ. Voilà à quoi on assiste dans la zone des trois frontières du côté du Niger. Et pendant 5 ans de cela, nous nous demandons est-ce que nous ne sommes pas abandonnés. De telle manière que l'insécurité est transportée même dans les grandes villes.
Dans le bureau d'Abbas, ce jour, il y avait des habitants d'un des villages de la commune du Goroual venus chercher de l'aide en nourriture auprès de leurs parents. Un d'entre eux, sous couvert de l'anonymat, a accepté de témoigner sur ce qu'ils vivent. Nous vivons dans la peur et la terreur permanente. On n'est jamais sûr la nuit de voir le jour. Ils nous ont pratiquement pris tous nos moyens de subsistance. Moi, je suis arrivé ici hier pour chercher de quoi manger pour ma femme et mes enfants que j'ai laissés là-bas. Nous sommes nombreux dans cette situation chez notre hôte. C'est vraiment difficile et pénible pour nous.
Donc vraiment, la calcanation.
Face au désarroi des populations de cette zone, le comité pour la paix et la cohésion sociale dans la région de Tillabéri que représente Abbas Idrissa plaide pour que les autorités nigériennes déploient davantage d'efforts en synergie avec les deux autres pays de la zone des trois frontières.
Il faut que l'État du Niger prenne conscience que et accepte que le Liptako Gourma du Niger, les trois frontières, est occupé aujourd'hui. Et qu'ils doivent remplir leurs devoirs régaliens de défendre et de restaurer l'intégrité territoriale du pays et d'assurer la sécurité des biens et des personnes de ces localités. Surtout, d'éviter de ne pas s'entendre, ne serait-ce que militairement, avec le Burkina et le Mali pour combattre ce terrorisme. Voilà l'appel que je lance.
Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Il y a 2 ans, l'ancien président tchadien Idriss Déby a perdu la vie lors de combats avec les rebelles du Fakat dans la région du Kanem, située à 300 km nord-ouest de N'Djamena. Malgré l'annonce d'une enquête sur les circonstances exactes de sa mort, aucune conclusion officielle n'a été rendue publique jusqu'à présent. C'est notre fait marquant de la semaine. Je suis en ligne avec Ange Issem, journaliste de notre radio partenaire Liberté FM à N'Djamena. Bonsoir, monsieur Issem.
Bonsoir, monsieur Erika.
Issem, il s'agit d'une question sensible, n'est-ce pas? Est-ce que la presse locale est libre de traiter cette information et d'exprimer des opinions divergentes sur le sujet?
Alors, vous le dites sensible, d'accord, mais la presse a essayé par plusieurs fois d'aborder ce sujet, mais ce sont les acteurs qui mystifient, c'est-à-dire la mort du président Marshal Idriss Déby Itno. Vous ne pouvez pas aborder ce genre de sujet sans les acteurs, n'est-ce pas? Alors, c'est le véritable problème de la presse locale. L'accès aux sources d'information cause véritablement un problème aujourd'hui dans la presse locale. Et puis, faire du journalisme d'investigation au Tchad, je dirais que c'est une autre manque de l'histoire. Donc, on se contente de ce qui a été dit. Le président de Déby dit qu'il est mort tantôt le lundi 20 avril, tantôt un mardi, tantôt un dimanche, et donc aucune information fiable m'a été donné sur la mort du président maréchal Idriss Déby Itno. On nous a informé par voie de presse que l'incursion rebelle a eu lieu le samedi et que l'armée tchadienne contrôlait la situation et que les rebelles sont à débandade. Mais curieusement, on nous informe que le président est tué un lundi, mort aussi de ses blessures. Et même, allez-vous comprendre, lors des obsèques du président Maréchal Idriss Déby, ses enfants ont affirmé au haut de la tribune que le père
Issem,
est mort un dimanche.
Issem, comment la presse locale traite-t-elle l'absence de conclusions officielles et publiques ainsi que des potentielles zones d'ombre de l'enquête, très rapidement?
Alors, selon certaines sources, Déby serait tué au palais. D'autres parlent d'un assassinat bien organisé. Certains membres de la famille détiennent le secret. D'autres encore disent que Déby est tué par les éléments de Pâques lors de leur intuition le lundi suite de ses blessures. Ça, au moins, c'est la source officielle jusqu'à preuve avant les conclusions de l'enquête sur les circonstances et la cause de la mort du maréchal Idriss Déby. D'autres encore accuseraient la France parce que depuis la campagne présidentielle, l'homme, le président Idriss Déby, se serait attaqué aux Blancs. Suivez son discours quand il parle de son maintien au pouvoir par la France, par la modification de la Constitution, par le désordre organisé dans le Sahel avec la mort de Kadhafi, qui serait commandité par la France. Et il parle de la monnaie unique. Donc tous ces devoirs-là ont fait que la France voulait se débarrasser.
Merci, merci Angisem pour toutes ces précisions. Vous êtes journaliste de notre radio partenaire Liberté FM à N'Djamena. Je vous parlais de Bougouni, un exemple de résilience face à l'insécurité. Cette ville carrefour située entre la Guinée, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a été frappée par l'insécurité, mais elle a su faire preuve de résilience. Elle a adopté des mesures nécessaires pour se protéger, tout en maintenant une vie normale pour ses habitants. Cette résilience est essentielle dans un contexte où l'insécurité est en défi permanent. Et Bougouni est un exemple à suivre pour d'autres régions confrontées au même défi. C'est un reportage de Mohamed Danyoko.
Ville Carrefour, la nouvelle région de Bougouni, dirigée par le général de brigade Keba Sangaré, a vécu du 9 au 12 mars au rythme de la 10e édition du Festival d'Idadi. Un festival qui a drainé plusieurs milliers de personnes dans la ville. Dans un contexte où l'insécurité s'étend un peu plus vers la région du sud, les forces de défense étaient visibles tout autour du site du festival et dans la ville. Fils de la région, l'ancien ministre Yaya Sangaré s'est dit rassuré par cette forte présence des forces de défense.
Le seul aspect aujourd'hui qui a déclaré au niveau de la région de Bougouni, ça c'est les conflits intra-communautaires et qui sont consécutifs à certainement une mauvaise gouvernance foncière. Mais sinon, ce qui concerne les terroristes, nous pouvons dire quand même que les forces de sécurité sont en train de faire de leur mieux pour vraiment contrer l'avancée des terroristes dans cette région.
Le dimanche 30 mai 2021, le poste de contrôle de PK, situé à 1 km de la ville de Bougouni, a été la cible d'une attaque terroriste entre 1h et 5h du matin. Bilan, 5 morts et un véhicule calciné. Depuis cette date, s'il n'y a pas de psychose, n'empêche qu'il y a une forme de préoccupation de la part des populations.
Bougouni, c'est un carrefour. Donc, nous sommes une région qui est franchement entre la Guinée, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes au milieu, nous sommes un carrefour. À cet effet, la sécurité, c'est quelque chose qui préoccupe trop la population de Bougouni. Et on est quand même là-dessus. Nous qui sommes au niveau des médias, on est en train quand même de sensibiliser la population pour qu'ils puissent dénoncer d'un moment à l'autre quand, dès qu'ils voient des personnes suspectes au niveau de la ville, de les dénoncer. Donc c'est quand même un problème qui nous préoccupe.
Grâce à ces efforts des forces de défense et des populations, la ville de Bougouni et au-delà la région de Bougouni connaît une situation stable à l'instar de plusieurs autres régions du sud du Mali.
Pour moi, quand même, l'insécurité, c'est des mentalités, quoi. Pour moi, personnellement. Puisque moi, je ne sens rien ici comme l'insécurité. Depuis que nous sommes là, on est tranquille, on n'a pas de problème du tout.
Si Bougouni accueille aujourd'hui des exposants venus de toute l'Afrique de l'Ouest, Le souhait des organisateurs du festival d'Idadi est que le festival Ogobanya, délocalisé à Bamako, puisse se tenir à Badiangara et que le festival au désert, devenu Agna, après sa fusion avec le festival Ciné Ado, puisse se tenir à Isakan, dans la région de Tombouctou. Mohamed Danyoko, le Bureau Afrique, Bamako.
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Au revoir et à très bientôt.